Je parle, tu parles, nous parlons, nous tous, nous savons brasser les mots, parler, tout cela, nous savons bien le faire. Et d'ailleurs, en arrivant tout à l'heure, dans le hall d'entrée de ce temple, les langues allaient bon train pour échanger des nouvelles, se saluer, raconter tel événement, important ou plus modeste, raconter les dernières choses auxquelles on avait pu assister. Quelquefois, c'est des choses vraiment sans importance ou au contraire des choses très importantes. Tout cela faisait un brouhaha dans le hall d'entrée qui montrait cette parole. Alors certains diraient ce verbiage, hein, ça c'est toujours une question d'appréciation, cette parole qui circulait très allègrement entre nous tous. Et puis, nous sommes entrés dans le lieu de culte et plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, mais chacun s'est tu. Chacun est entré dans une attitude pour accueillir la parole de Dieu. Nos paroles, tout ce que nous échangions s'est arrêté pour faire de la place. Et comme je le disais dans la prière qui précédait les lectures bibliques, nous étions dans cette attitude, fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et que ta parole retentisse. Aujourd'hui, dans ce dimanche de Pentecôte, ce dimanche où nous sommes particulièrement attentifs au don de l'Esprit, à la présence de l'Esprit de Dieu, à la manière dont cet Esprit nous rend frères du Christ, nous rend enfants de Dieu, nous sommes rassemblés là dans cette attente de cet Esprit. Et Paul résume ce que nous recevons aujourd'hui. Nous le recevons, je pense, tous les jours, nous le recevons tous les dimanches, lorsque nous sommes ainsi attentifs à la parole de Dieu. Mais ce matin, cela convenait parfaitement pour ce dimanche de Pentecôte. Paul résume en disant que cet Esprit nous inspire de dire « mon Père » à notre Dieu. De dire « mon Père » et il faut bien préciser que ce n'est pas un « mon Père » un peu solennel, mais tel que cela est présenté par Paul, on pourrait le dire d'une manière plus simple, vous l'avez sûrement déjà entendu dire, en fait c'est papa, c'est vraiment quelque chose de très proche que nous sommes invités à découvrir pour notre relation avec Dieu. Paul résume en disant que le Dieu qu'il prêche, le Dieu qui le sauve, est celui à qui l'on peut s'adresser en disant « papa », en disant « mon père ». Pour la plupart d'entre nous, qui avons déjà lu quelques textes bibliques, cette affirmation peut paraître déjà connue, voire banale. Et il me semble important de bien reprendre tout ce que cette affirmation a de force. Le fait que cette affirmation, en fait, n'est pas évidente du tout. En fait, quoi qu'on ait l'habitude de se rassembler, quelles sont nos habitudes de nous rassembler, depuis l'époque du petit Samuel, de la vocation du petit Samuel dans le début de l'Ancien Testament, les temps n'ont pas beaucoup changé. Et finalement, la parole de Dieu est toujours rare que celui d'entre nous qui vraiment vit instant après instant sans qu'il y ait jamais de rupture, vit effectivement instant après instant de la parole de Dieu, le disent. Mais je le sais bien, pour moi, comme pour chacun d'entre vous, il y a aussi une difficulté des temps et un sentiment que lorsque nous aimerions justement recevoir cette parole, lorsque nous aimerions avoir cette proximité avec le Seigneur, eh bien, nous sommes régulièrement, alors pour les uns souvent, pour les autres parfois, dans ce sentiment que la parole de Dieu s'est faite rare. Pourquoi ? Est-ce que parce que nos mots, notre verbiage occupent trop de place et que la parole de Dieu ne peut plus retentir ? Est-ce que c'est parce que nous n'entendons plus, que nous aurions les oreilles bouchées ? Est-ce que c'est parce que nous ne trouvons plus les mots devant certains événements qui nous atteignent trop, qui nous écrasent trop, et que ne trouvons plus des mots pour nous-mêmes, nous ne savons plus non plus entendre les mots de la parole de Dieu ? Ce que Paul veut nous dire avec ce passage de l'Épître aux Romains, c'est que l'Esprit qui est donné à Pentecôte et qui est redonné à chacun tout au long des jours qui s'écoulent, cet Esprit est celui qui rétablit la relation, qui permet une relation nouvelle, d'une proximité et d'une profondeur qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et il faut bien sortir de l'évidence qui pouvait être la nôtre, de la banalité, pour redécouvrir ce qu'il y a d'extraordinaire que d'avoir un Dieu à qui l'on puisse dire « Papa ». Il y a deux semaines, la semaine dernière, pour le synode national de notre Église réformée de France, j'étais avec un certain nombre de personnes dans la région à la fondation John Bosco, à Bergerac, dans le sud-ouest, et nous avons vécu quelques moments de ce synode avec les résidents de cette fondation qui accueille des gens très divers et en particulier des personnes souffrant de handicaps lourds, aussi bien de handicaps physiques que mentaux, et des handicaps lourds et multiples. Et une des choses qu'il nous a été donné de voir, ce sont ces machines qui existent autrefois, c'est à la base d'un ordinateur, et qui permettent à quelqu'un qui n'arrivait aucunement à s'exprimer, à dire des mots ou à manifester des mots, qui permettent qu'il puisse soit écrire, soit dire, soit formuler des mots, alors avec un système de clavier, avec des systèmes qui synthétisent la voix. Enfin, il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire et qui permet à ces personnes handicapées de dire, d'être compris. Et alors, ce que j'ai fortement entendu, c'est d'abord, bien sûr, la joie de ces handicapés très profonds qui peuvent être compris, mais aussi l'étonnement de ceux qui les entourent, des soignants et des visiteurs et des accompagnants, qui à ce moment-là découvrent que ce que disent, ce que souhaitent ces polyhandicapés n'était pas ce qu'ils croyaient avoir compris autrefois. Et que ces personnes pleines de sollicitude pour ces handicapés découvrent tout d'un coup que ce qu'ils avaient cru discerner dans des gestes ou dans des cris ou dans des expressions ne correspondait pas à ce que ces gens voulaient dire, et qu'il y avait donc une rupture de la communication, et que cette communication était rétablie. Il me semble que nous sommes souvent dans cette rupture, dans cette incapacité, et en même temps dans cette frustration terrible, soit de ne pas être compris, soit de ne pas comprendre. J'aimerais vous lire un court passage de l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Ce passage se situe à la charnière de l'évangile de Marc, lorsque Jésus rencontre une hostilité de plus en plus grande des autorités juives, un rejet de la part des pharisiens et des autorités, mais aussi une incompréhension de la part de ses disciples qui n'arrivent pas, alors qu'il les enseigne jour après jour, qui n'arrivent pas à comprendre le sens de la mission de Jésus. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement et on le supplie de lui imposer les mains. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit « Ephphatha », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Cette guérison est un peu étonnante par rapport à d'autres guérisons. Elle est un peu étonnante parce que il n'y a pas de parole en dehors du mot énigmatique, un peu magique, Ephphatha. Et alors que la plupart des guérisons s'accompagnent de paroles, entre autres cette fameuse parole sur le pardon des péchés que Jésus donne à la plupart des malades qu'il guérit, ici, il n'y a pas de parole. On peut le comprendre, le malade est sourd. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus à voir dans ce récit, et dans la manière dont Jésus, avant de prononcer une parole, va entrer en contact, va faire des gestes, va entrer en contact très étroit avec ce mélange de salive un peu étonnant qui fait penser à un geste magique. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose qui est plus encore qu'un geste magique, qui est vraiment le contact le plus étroit possible qui s'établit entre Jésus et ce malade. C'est un récit de miracle différent de la plupart des autres, un récit qui ressemble aussi à un autre qui est proche, la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, où il y a aussi un contact étroit et un échange avec de la salive et des choses tout à fait étonnantes. Et tous les deux se situent à cette charnière lorsque Jésus rencontre l'incompréhension de ses disciples et l'incompréhension qui conduit à l'hostilité de la part des autorités et de la part aussi des pharisiens. Et tous les deux sont présents pour montrer la guérison possible, me semble-t-il. La montrer aux disciples qui ne comprennent pas le sens de la mission de Jésus et ce miracle leur permet, devrait leur ouvrir la compréhension du sens de cette mission et de cette proximité que Jésus a avec ceux qu'il rencontre. C'est pour leur permettre de comprendre jusqu'où cette proximité va aller, et en particulier le fait que Jésus va devoir être tellement proche des hommes, et en particulier de la violence des hommes, qu'il va devoir la subir. Et ces chapitres-là qui ouvrent au récit de la passion, de la mort de Jésus, dans laquelle l'amour de Dieu se révèle en plénitude. Jésus vient donc pour, dans leur aveuglement, dans leur surdité, les ouvrir à cette nouvelle extraordinaire de la présence de Dieu au cœur du monde des hommes, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu donnée à tous, même les aveugles, même les sourds, et chacun, les disciples y compris, sont des aveugles et des sourds qui n'arrivent pas à comprendre cet évangile et pour lesquels il faut rétablir cette relation avec le Père. Pour chacun d'entre eux, il faut à nouveau offrir l'amour de Dieu. Il y a là une parole en geste qui dit cette proximité complète. Cette parole en geste qui vient dire toute la profondeur de ce que Jésus apporte. On peut penser à d'autres épisodes, par exemple celui, vous savez, de ce jugement de la femme adultère où Jésus dessine sur le sol de manière tout à fait énigmatique et où, avant de prendre la parole, il dessine pour montrer qu'il y a quelque chose à dire, qu'il est bien présent. Mais ce n'est pas encore le temps des mots. On peut penser à Voilà. Et on peut penser donc à ces épisodes où Jésus est totalement au lavement des pieds. C'est ça que je... On peut penser aussi au lavement des pieds, incompréhensible pour les disciples, et dans lequel Jésus commence par le geste, suscite l'incompréhension, suscite d'ailleurs même l'hostilité de Pierre, et c'est seulement ensuite qu'il essaye d'expliquer, et on peut penser d'ailleurs que les disciples ne comprendront pas le sens de ce lavement des pieds, en tout cas pas dans un premier temps. Il y a dans ces guérisons, dans ces gestes, tout l'élan de Jésus qui veut briser l'enfermement, qui veut ouvrir la relation et qui veut manifester pleinement l'amour de Dieu. Et cette parole qu'il veut prononcer, il faut auparavant l'ouvrir, mais il faut aussi ouvrir ceux qui vont la recevoir. Le don de l'Esprit, je reviens là au passage de Paul, ce don de l'Esprit qui permet de dire « mon Père », qui permet de dire « papa » à Dieu, n'est pas quelque chose qui est évident. Il faut que nous soyons ouverts à cette parole, que nous y soyons disponibles. Et lorsque nous serons disponibles, alors nous pourrons reconnaître cet amour de Dieu, alors nous pourrons y entrer. Et ce que Paul vient nous dire, c'est que l'essentiel, c'est cette découverte de la relation personnelle, de proximité avec le Seigneur. Dans un autre passage, dans une autre épître, Paul va relativiser tout ce que l'Esprit peut faire naître en nous, tous ces dons spirituels. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul va dire que, au fond, la seule chose qui soit vraiment première, la seule chose qui compte, c'est le don de l'amour. Et que tout le reste, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons entreprendre, tout ce qui nous est donné et que nous pouvons donner aux autres, dépend de ce don premier et essentiel qu'est l'amour de Dieu pour chacun, l'amour qui nous permet de nous adresser à lui en disant « Papa ». L'Esprit donne la parole, mais pas n'importe quelle parole. Une parole d'amour pour Dieu, une parole d'amour de Dieu. Et il fait naître en nous une parole, mais pas n'importe quelle parole. Cette parole qui nous permet de dire « Papa » au Seigneur et qui nous permet de nous approcher des autres, de nous approcher d'eux malgré leurs enfermements, malgré leur solitude, malgré aussi nos propres enfermements et nos propres solitudes. Une parole qui ouvre la relation, une parole qui fait cesser les surdités et l'aveuglement, une parole qui suspend nos verbiages, nos facilités pour occuper le temps, pour brasser du vent. Redemandons, demandons et redemandons de cet esprit qui parle l'évangile au cœur de mon esprit, qui me permet de redécouvrir toute cette force, cette originalité de cette parole qui me permet de dire « Papa » au Seigneur. De cette parole qui ensuite m'engage et me permet d'aller au-devant de ceux qui m'entourent et qui me permet, malgré leur surdité, leur aveuglement, d'entrer en relation avec eux et de me mettre à leur service. Sinon, tout ce que nous entreprenons risque fort de n'être que du vent. Oui, demandons, redemandons cet esprit, et demandons et redemandons d'avoir d'abord ce premier mot qui nous permet d'oser dire au Seigneur, « Tu es mon Père, et c'est de toi que j'attends toute chose. Tu es mon Père, celui qui m'aime, qui me comprend, et que grâce à cet esprit, je peux comprendre. Demandons cet esprit, et il nous sera donné. Amen. »